à tous et à toutes, bienvenue dans cette 7e émission de JT Foot. Samedi soir, le TFC s'est une nouvelle fois incliné face à Brest 5 buts à 2 pour le compte de la 20e journée de Ligue 1. Une 10e défaite consécutive en championnat qui continue d'enfoncer les violets dans la crise. Ils sont maintenant à 5 points du barragiste amiens. Dans cette émission, vos rendez-vous quotidiens, le quiz avec Julien Bosque, les meilleures déclarations du week-end avec l'autre Julien, Julien Prouvoyeur. Et cette semaine, Hugo est allé voir du futsal avec le derby de Toulouse. Mais trêve de bavardage, EJT Foot, c'est tout de suite. Avec moi pour cette émission, Thomas et Axel. Salut les gars.
Bonjour Arnaud.
Salut Arnaud.
On revient tout de suite avec vous sur le match de samedi face à Brest, mais juste avant, c'est l'heure du TEF Actu avec Victor. Salut Victor, alors quoi de neuf dans le TFC, dans l'actu du TFC cette semaine?
Écoute Arnaud, dans ce temps bien grisonnant, on va commencer ce TEF Actu par une bonne nouvelle. En effet, les U19 violets l'ont emporté ce week-end à Rodez et se qualifient pour les 16e de finale de Coupe Gambardella. Les joueurs de Nicolas Sanoun se sont imposés 4 buts à 1 grâce notamment à un triplé du capitaine Janis Antiste. Les Pitchouns, finalistes la saison dernière, ne sont donc plus qu'à 4 matchs du Stade de France. On saura jeudi leur adversaire au prochain tour qui se jouera début février. La réserve, elle, se déplaçait à Muret pour le compte de la 13e journée de championnat de National 3. Avec un groupe étoffé par quelques pros, notamment Rogel et Diarra, les hommes de Jean-Christophe Debut ont ramené un bon point du match nul chez le 3e du classement. Un partout donc grâce à un but d'Ilyes Soudani. La réserve pointe à la 9e place et commence à creuser un petit écart sur le fond du classement. Prochain match dans 2 semaines face à Rodéo à la maison. A noter que les féminines reprennent elles le championnat ce week-end et vont avoir fort à faire car elles se déplacent chez les leaders ICI Foot. Enfin en bref, Alain Casanova dans l'émission de Luis Fernandez et sur Bein Sport est revenu sur son retour au club en début de saison. Autant dire que l'ancien gardien de but en a gros sur le cœur, il s'est notamment plaint de l'accueil des supporters violets qui selon lui l'auraient mal accueilli. Je cite, je n'avais pas encore signé que les supporters étaient déjà contre moi. Pas sûr quand même que ce soit la principale raison des mauvais résultats toulousains. En tout cas, prochain match pour les joueurs de Denis Zanko samedi en amical face à Rodez avant de reprendre le championnat à Lyon le 26 janvier prochain. Voilà, c'est tout pour cette semaine et c'est déjà pas mal.
Merci Victor. Maintenant, place au débat, je le disais en début d'émission, le TFC s'est incliné 5-2 face à Brest au Stadium. Une décimale des défaites et la crise qui continue. Bref, les violets continuent de creuser leur tombe vers la Ligue 2. On en parle tout de suite. Avec moi donc pour parler du match, Axel et Thomas. Bonjour messieurs.
Bonjour Arnaud.
Les violets ont donc subi une lourde défaite au Stadium. Malgré l'ouverture rapide des Bretons par Johan Cour, les Toulousains ont vite réagi avec un doublé de Diakité. On pensait alors que les hommes de Denis Zanko étaient capables d'aller chercher à minima une victoire ou même un nul. Mais la foudre s'est abattue sur la Ville Rose. 4 buts en 13 minutes, Charbonnier par deux fois, Mbok et Cardona. Score final 5 buts à 2, une crise qui perdure. On écoute le coach toulousain en conférence d'après-match.
Et aujourd'hui, je crois que tous les éléments sont liés, à la fois sur le plan mental, à la fois sur le plan athlétique, à la fois sur le plan technique. On a perdu des pertes de balles en seconde période dans notre moitié de terrain et qu'on a payé très cher. Donc il faut aborder les éléments dans leur globalité aujourd'hui pour parler de cette fragilité individuelle et collective.
Messieurs, vous étiez au stade pour la première de Denis Zanko. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette première du nouveau coach toulousain?
Comme tu l'as dit, justement, le TFC, comme à son habitude, a été mené au score, donc dès les premières minutes de jeu. Mais après, là, ce qui a été notable, c'est surtout le fait que les violets ont su réagir assez vite, et c'est ce qui est louable. Après, il y a aussi à noter les deux buts sur coup de pied arrêté, et il me semble que c'est une première cette saison. Donc, encourageant cette première mi-temps, mais encore après tellement frustrant justement de s'effondrer comme ça en seconde mi-temps.
Axel, ça t'a inspiré quoi cette première de Denis Zanko sur le banc toulousain?
Moi je tiens à souligner déjà le déclic, il y avait vraiment une envie qui a été montrée sur la première mi-temps. Ça s'est vu notamment avec une très grosse débauche d'énergie côté gauche, je crois que Thomas tu peux en parler.
Ouais en effet, ouais, surtout le duo Bois-Garcila qui a vraiment fait mal aux Brestois, qui s'est passé plusieurs fois, a bien combiné ensemble.
Et j'ai noté aussi une très bonne partie de match de William Vainqueur jusqu'à la 70e minute où tout le groupe toulousain a coulé. Et un pressing assez intéressant mais parfois désordonné qui a beaucoup gêné les Brestois, notamment Cour et Cardona qui étaient complètement sevrés de ballon en première mi-temps. Et aussi Batocchio et Charbonnier qui étaient obligés de dézoner soit sur les côtés et Batocchio parfois au niveau du rond central.
Tu l'as dit Axel, jusqu'à la 70e minute, donc on va être précis, 72e et jusqu'à la 85e, 4 buts en 13 minutes. Mmh. Pourtant le TFC a paraissait quand même en position jusqu'à ce coup de tonnerre, en fait, aller chercher au moins un point face à Brest.
Ouais, totalement, parce que là, justement, au-delà de l'envie, moi, ce que je retiens personnellement en première mi-temps, c'est aussi qu'il y a eu des phases déjà une touche. Ça fait du bien de voir Toulouse capable de faire de telles choses, parce que ça faisait longtemps qu'on n'ait pas vu justement des joueurs toulousains dédoubler, tout ça. Et notamment même Dossévi, Vainqueur et Sangaré, qui vraiment étaient efficaces au milieu en première mi-temps. Et après, bon, c'était beaucoup plus compliqué en seconde période.
Axel ?
C'est vrai qu'en seconde période, et même en première, le gros problème, c'est beaucoup trop d'erreurs techniques. On était quand même face à un match assez pauvre. Il y avait beaucoup trop d'erreurs dans la dernière, voire l'avant-dernière passe. Et malheureusement, le TEF s'est pendant longtemps contenté d'essayer de balancer les ballons devant pour trouver Yaya Sanogo en remise ou un appel de Koulouris. Et l'exemple même de ce problème, c'est les deux buts qui sont mis sur coup de pied arrêté. Il y a un gros problème de Toulouse dans le jeu et un gros problème pour marquer dans les phases de jeu, justement.
Donc en plus de l'attaque et la défense, on en parle depuis le début de la saison dans le JT Foot, la défense est souvent mise à mal, souvent même quasiment aux abonnés absents. Pour ce premier match au stadium de Nizancourt, on avait une défense intéressante, avec notamment la recrue Gabriel Sen, mais l'attaquant de Brest, Gaëtan Charbonnier, a donné son avis justement sur cette défense totalement friable du TFC.
Il recule parce qu'on a été beaucoup plus haut, tous, on récupérait les ballons dans leur camp, donc tout de suite c'est plus facile pour attaquer. Et puis à partir du moment où on a marqué, on a senti qu'on avait mis un coup de massue et derrière on a continué à appuyer de plus en plus nos attaques et ça nous a réussi.
Axel, cette nouvelle recrue Gabriel Sen arrivée là cet hiver, il n'y a pas très longtemps, qu'est-ce qu'elle t'a inspiré ou même la défense en général?
Alors Gabriel Sen en particulier, je l'ai trouvé assez fébrile dans les relances. Et la défense en général, j'ai trouvé qu'il y avait un gros problème d'alignement. On le voit notamment sur les trois premiers buts qu'encaisse le TFC. Le premier, Silla, est beaucoup trop loin de ses deux défenseurs centraux, ce qui laisse un boulevard à court pour aller fixer le gardien. Et sur les deux, le doublé de Charbonnier, Gabriel Sen ne sait jamais où s'aligner. Il se retrouve à être collé au premier poteau et à essayer de marquer une zone où il n'y avait aucun attaquant brestois. Et Diakité, complètement, lui, dézonné au contraire, qui était presque à une position où devait être Issiaga Silla.
Thomas, cette nouvelle charnière du TEF, encore une.
Bah après, là, c'est la première fois qu'ils jouent ensemble. Donc, bon, moi, au-delà de ça, ce qui m'a vraiment posé problème, c'est le niveau mental. Parce que c'est pas possible, en fait, de se prendre 3 buts en 14 minutes. On le sait tous, pour se maintenir, il faut être fort, surtout mentalement, et aussi y croire. Et là, moi, avec le TEF, j'ai l'impression, en fait, que le navire est dérive, mais que personne semble être en capacité, en fait, de redresser le cap. Donc, c'est vraiment ma plus grosse inquiétude. Ce manque de leadership, en fait, dans l'équipe.
Excel.
Je peux aussi ajouter, en ce qui concerne la relation entre les défenseurs, Diakité avait dit en zone mixte après le match qu'il y avait encore des difficultés dans la communication, notamment parce qu'il devait parler anglais avec Gabriel Sen. J'ai vu un article de La Dépêche ce matin qui dit que Gabriel Sen a fait beaucoup d'efforts pour s'intégrer dans le groupe, l'intégration était de mieux en mieux, qu'il faisait beaucoup d'efforts aussi pour parler français, à voir ce que ça va donner pour les prochains matchs.
Merci messieurs, vous en avez désormais l'habitude. Après chaque match, le JT Foot décerne ses traditionnelles récompenses, la saucisse et le magret.
Vous allez peut-être être surpris par ma saucisse.
Alors messieurs, on va commencer par, vu le match, votre saucisse. Axel, quelle est ta saucisse pour ce match-là?
Moi, ma saucisse, c'est Sangaré, au milieu de terrain, qui a perdu énormément de ballons dans des passes latérales et qui aurait pu coûter très cher dès la première mi-temps au TFC. Et c'est aussi une passe d'ailleurs mal ajustée qui a amené au cinquième but brestois.
Thomas.
Alors moi j'aurais pu choisir Sanogo parce qu'il n'a pas vraiment pesé sur la défense brestoise, mais finalement j'ai choisi de prendre Gabriel Sen parce qu'il est fautif sur 2 des 4 buts. Et après bon, je ne veux pas être trop dur avec lui parce que c'est son premier match en Ligue 1 avec le TEF, mais c'est vrai que moi j'attends beaucoup plus de son apport en fait, simplement défensif.
Et votre malgré Thomas, quel joueur tu peux ressortir malgré ce...
Moi j'ai choisi Boigard, parce que Boigard justement je trouve assez intéressant sur le côté, surtout quand il est titulaire, là il me semble c'est sa 2e ou 3e titularisation de la saison, et je pense que voilà, il est juste techniquement, il combine très bien avec Silla, il l'a montré pendant toute la première période. Après maintenant moi ce que je veux c'est qu'il devienne titulaire indiscutable à court terme.
Axel, un malgré pour ce match là?
Là sur ce point je vais être d'accord avec Thomas, pour moi c'est Quentin Boigard qui a fait vraiment très mal avec ici à Lucas Silva sur le côté gauche. Il était pas loin de marquer à un moment sur une frappe en roue libre en coin de surface. Et puis une passe décisive, un corner joué à deux qui mène aussi au but de Diakité. Il était présent sur tous les buts.
Merci. Alors pour la prochaine journée, le TFC se déplacera au Groupama Stadium pour affronter Lyon. Des Lyonnais qui se sont imposés face à Bordeaux samedi dernier. Axel, un pronostic pour ce match-là?
Actuellement, je vois pas comment le TFC pourrait battre Lyon. Il sort d'une large victoire en Coupe de France, une victoire contre Bordeaux, mais aussi, il faut se rappeler de la balade qu'il y avait eu en Coupe de la Ligue, où ils avaient mis 4-1 au TFC. Et vraiment, la défense faisait peine à voir sur ce match-là.
Thomas, tout aussi pessimiste qu'Axel sur cette image-là?
On peut être que pessimiste, forcément, beaucoup plus solide que le TFC. Ils veulent se relancer aussi en championnat, parce qu'ils ont eu quand même une fin d'année assez compliquée. Ouais, je vois effectivement le TFC s'incliner du coup à Lyon.
Merci messieurs, en espérant que vos paris s'avèrent faux pour le bien du TFC cette saison. La Ville Rose avait elle aussi le droit à un derby ce week-end, un derby de futsal entre le Toulouse Métropole Futsal et l'Union des Jeunes Sportifs de Toulouse. Notre reporter Hugo était sur place pour JT Foot.
Toulouse, nouveau bastion du futsal en France. Samedi après-midi, deux clubs de la Ville Rose, le Toulouse Métropole Football Club et l'Union des Jeunes Sportifs de Toulouse, se sont affrontés au Palais des Sports pour la 13e journée de D1. Une grande première depuis la remontée du TMFC cette saison dans l'élite. Dans les tribunes, un public d'environ 400 personnes était venu voir ce derby. Pour le président du TMFC, Bertrand Olivant, le futsal comme son club, qui évolue désormais au Palais des Sports tout en s'entraînant à Bruguière, doit grandir à tous les niveaux dans un championnat encore très sous-médiatisé. Mais la venue de la star portugaise Ricardinho dès la saison prochaine à l'Access Paris devrait accélérer ce processus. On l'écoute.
Pour l'image du futsal, oui, c'est ce qui se véhicule, faire venir des joueurs réputés européens dans des clubs comme les nôtres, mais il faut savoir une chose, que nous ne sommes que des amateurs et c'est très compliqué de faire venir ces joueurs-là parce que financièrement, pour le moment, le futsal n'est pas assez connu et reconnu, et pour faire venir des investisseurs ou des partenaires, c'est encore difficile. Donc nous, on travaille, on sait où on veut aller, on sait d'où on vient, on sait où on veut aller et on verra dans le futur si le Grand Toulouse ou la mairie de Toulouse participe à ce projet. Déjà la mairie de Toulouse, vous avez Madame Laurence Arribagé, nous a amené cette aréna, ce gymnase, c'est magnifique pour nous, c'est très bien. Donc à nous encore de construire, pour le moment nous sommes qu'au tout début de notre histoire.
Sur le terrain, les joueurs du TMFC, 6e au classement et portés par leur star Marcello, font respecter leur rang en début de match face à l'UJS, 10e, habitué à jouer le maintien depuis quelques saisons et en plein doute depuis la démission surprise de leur président vendredi dernier. Et dès la 10e minute, Dos Santos permet au TMFC d'ouvrir le score d'une reprise de volée du droit, mais l'UJS réagit dans la minute pour recoller à la marque avant de sombrer coup sur coup pour terminer le premier acte à 3-1 en faveur du TMFC. C'est au retour des vestiaires que la rencontre s'enflamme, et même si le TMFC creuse l'écart avec un quatrième but, c'est surtout les trois réalisations de l'UJS en l'espace de 10 minutes qui remettent de l'enjeu avec un 4-4. Il reste alors moins de 5 minutes de jeu. Les joueurs du quartier de Bagatelle font parler leur folie sur le terrain, mais Marcello sur une erreur de marquage et Willy dans les dernières minutes mettent définitivement la défense de l'UJS sous l'eau. Score final 6-4, un spectacle de qualité pour les deux capitaines, Majid Saïd pour le TMFC et Younes Hassan pour l'UJS, qui ont réagi à notre micro à la fin du match.
On a fait une entame de match très bonne, on était dans l'intention, le pressing était bon, on a respecté les consignes. C'est vrai qu'on mène au score assez rapidement, enfin, ils reviennent assez rapidement eux, mais on arrive à la mi-temps sur un score de 3-1. Malheureusement, en deux secondes périodes, on passe devant 4-1, malheureusement. Je ne sais pas ce qui se passe, mais ça fait plusieurs matchs là qu'on mène et que les équipes reviennent au score. Mais bon, on a vu aussi qu'on avait un état d'esprit. On a réussi à revenir et à repasser devant alors que c'était eux qui étaient dans la bonne lancée, on va dire. Et puis la fin, comme vous dites, elle est heureuse et c'est très bon pour nous. Ça nous fait du bien au classement et voilà, on commence très bien cette année 2020. Bon, en début de saison, on va pas vous cacher qu'on était plutôt sur le maintien assez rapidement. On est une équipe assez jeune. Mais au fil des matchs, on a réussi à gagner et donc on s'est pris au jeu. Là, on est sur la première partie de tableau. Puis voilà, on va prendre les matchs un match après l'autre et on verra ce que ça donne. Mais là, on pourra jouer un peu plus sereinement parce qu'on s'éloigne un peu de la zone de relégation. Et voilà, c'est bien pour la suite.
Ouais, voilà, un derby, il y a toujours une saveur particulière. Et voilà, je pense que les deux équipes, elles voulaient gagner. Et voilà, quand on vient à 4-4, on se dit qu'il y a moyen. Et voilà, on sentait que voilà, ils étaient assez touchés au niveau du 4-2, 4-3, 4-4. On se dit que peut-être qu'il y a moyen. Et à la fin, ben, on se prend un but et on est obligé de. En fait, on retombe dans nos travers, la concentration. Voilà, chaque année, on progresse. On a toujours joué le match, hein. On est bien, on a l'habitude de ça. Et j'espère que cette année, on va le faire comme il se doit sur le terrain et avant les dernières journées, parce que c'est toujours compliqué.
Pour les deux formations, la fin des matchs aller est l'heure de tirer un premier bilan. Le TMFC figure toujours parmi le peloton de tête et constitue l'équipe surprise de cette première partie de saison en tant que promu. Pour l'UJS, la donne est différente. Les nombreuses absences dans l'effectif n'ont pas aidé sur ce match, mais le club devra avant tout s'appuyer sur son état d'esprit pour espérer une nouvelle fois réussir l'opération maintien cette saison.
Un reportage d'Hugo Lozy. Vous en avez désormais l'habitude, après chaque journée de football, le JT Foot vous déniche les meilleures pépites, les plus belles déclats de notre Ligue des Talents. Et cette semaine, c'est Julien qui s'en est chargé. Salut Julien.
Et oui messieurs, j'ai trouvé pour vous le meilleur des déclarations de la semaine. Et on aurait pu commencer par Christophe Gatier, qui a qualifié l'équipe de Dijon comme étant, je cite, « une équipe de peintres », mais l'entraîneur s'est contenté de qualifier ses adversaires du week-end uniquement dans le vestiaire lillois. Alors je vous propose d'écouter Pierre Ménès, qui aimerait rendre service à l'Olympique Lyonnais. Écoutez.
Touzard, 30 millions. Et moi je le conduis moi-même à l'aéroport, avec un petit mot de remerciement et des fleurs pour le club qu'il a pris.
Une réflexion qui devrait donc faire plaisir à Jean-Michel Aulas. On enchaîne avec Thomas Tuchel qui s'est découvert un nouvel ennemi. Les matchs à 21h.
Je connais beaucoup de filles, beaucoup de jeunes supporters dans l'école de mes filles qui ne peuvent pas regarder des matchs de Paris Saint-Germain. Ils ne regardent jamais un match. Jamais, parce que c'est pas possible. Ils doivent dormir parce que c'est l'école. Non, je suis toujours entre 9 et 11 heures.
Cela dit, des matchs un peu plus tôt, notamment le dimanche, ce n'est pas une si mauvaise idée. Enfin, on termine avec ses réactions. Plutôt... Allez, je vous laisse juger.
Valverde n'est plus l'entraîneur du FC Barcelone. Et ça mérite le champagne, messieurs-dames.
Alors, à l'image de la réaction de ses chroniqueurs, l'éviction de Valverde est peut-être l'événement de la semaine. Comme quoi, nous sommes plus raisonnables dans cette émission.
Merci Julien, il est bientôt l'heure de nous quitter, mais avant de terminer cette émission, place au traditionnel quiz. Et aujourd'hui, c'est Julien qui nous l'a concocté. Salut Julien.
Salut Arnaud.
Alors, sur quoi va porter ton quiz ce soir?
Alors, il n'y a pas de Ligue 1 ce week-end car il y a Coupe de France. Alors les Toulousains ne pourront pas participer au 16e de finale car ils ont été brillamment éliminés par le club amateur de Saint-Privé, Saint-Hilaire. Donc on va revenir sur les exploits des petits poussets de Coupe de France, mais aussi de certains clubs professionnels. Vous allez voir.
On est parti, vas-y Julien.
Alors, on va commencer par les trois clubs amateurs qui ont été en finale de Coupe de France depuis qu'il y a le statut professionnel. Est-ce que vous les connaissez, les gars?
Alors, il y a le CRUF, en 2000.
Le CRUF, c'est-à-dire Calais.
Calais, ouais.
Bonne réponse.
Carquefou en 2012, non?
Non, Carquefou quand même pas.
Les Herbiers?
Les Herbiers,
ça passe. Exact. En 2012, face à Lyon.
Et les Herbiers? Non, mais bon, les Herbiers, ça passe pas?
Non. Ils ont juste fait. Ah si, pardon, j'ai oublié. Erreur de ma part, je rectifie. Les Herbiers, pardon, mea culpa. Hop, en fait, il y en a quatre, voilà. J'ai mal fait mon travail. Hop, voilà, pardon. J'avais complètement oublié ce petit club vendéen. Voilà, on les embrasse, d'ailleurs.
Alors, attends, donc là, ça fait trois.
Guignon ?
Non, ça, c'était en Coupe de la Ligue, Guignon. Ils étaient pros.
Oui, c'est pas amateur.
Bon, vous trouverez pas, je pense.
Non,
alors,
je pense
c'était
pas.
Amiens en 2001, qui était en National, et qui, du coup, avait fait
chez toi,
un back-to-back finale amateur, d'ailleurs. Voilà. Et encore, excusez-nous, s'il y a des auditeurs aux Herbiers, voilà, on s'excuse. Alors ensuite, quand Quevilly va en finale face à Lyon, il y a aussi un autre club en demi-finale. C'est la première fois qu'il y a deux clubs amateurs en demi-finale. C'était qui le deuxième?
Carquefou, oh. Non, j'allais dire Carquefou, mais son grande conviction.
Très, je l'ai pas moi.
Je l'ai pas non plus.
Ils ont été éliminés par Lyon, du coup, qui avait gagné.
Non, aucune idée.
Bah, c'était le Gazélec d'Ajaccio qui avait fait un super parcours avant d'être éliminé donc par Lyon, le futur vainqueur. Alors là, ça reste chez les professionnels, mais il y a deux clubs de Ligue 2 qui ont gagné la Coupe de France dans l'histoire. Est-ce que vous les connaissez ?
Guingamp, malheureusement.
Guingamp, oui. Ligue face à qui ? Ligue tu peux me rappeler, Axel ?
Face à Rennes, je crois, c'est ça ?
Ouais, ce stade récent. Pas un très bon souvenir.
Ouais, ils l'ont refait une fois en Ligue 1. Ouais.
Et quand tu dis Ligue 2, c'est Ligue 2 actuelle, hein ? On est bien d'accord ? Des clubs qui sont en Ligue 2.
Non, ils étaient en Ligue 2.
Ah, quoi, ils étaient en Ligue 2,
Ligue 2 quand ils ont gagné la Coupe de France.
Ok.
Oh là. Plus vieux.
C'est 1959. Donc,
ah oui, d'accord.
Le Red Star.
On m'a dit de faire un quiz niveau relevé.
Ah ouais, non, en effet. Ah. Mais... Red Star, non.
On l'a pas,
non,
je crois.
C'est un club normand.
Le Havre.
Voilà, tu as bien lu, Julien, mais c'est la bonne réponse. Bravo à toi. Ils avaient fait 2-2 face à Sochaux avant que le match soit rejoué. Ils avaient battu les Sochaliens en finale.
Ouais, bah, une autre époque.
Ensuite, alors, autre exploit, c'était lors de la saison 2010-2011. Il y a un club amateur qui a éliminé 3 clubs de Ligue 1 d'affilée en 32e, 16e et 8e de finale. Est-ce que vous vous rappelez du club qui a fait cet exploit ?
Carquefou ?
Si là, c'est pas Carquefou.
Non, c'est pas Carquefou.
Quevilly ?
Non.
Chambéry.
C'est Chambéry,
oh,
en effet, qui avait éliminé Monaco en 32e de finale, puis Brest en 16e et Reims en 8e.
Parfait, merci beaucoup Julien, merci à tous, c'est la fin de JT Foot. Merci de nous avoir écoutés. Retrouvez tous les autres épisodes sur les plateformes de podcast Deezer, Spotify ou encore Apple Podcast. Pour encore plus de contenu, vous pouvez nous retrouver sur notre site JT Foot et sur notre Twitter @JT Foot. Merci à la technique, bonne journée ou bonne soirée et à la semaine prochaine.